industrielle. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan, au micro de Judaïsme Pluriel, pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h. Ce soir, religion et politique autour de Pessah. Avec Édouard Robrecht. Je ne crois pas prendre de risque en affirmant que l'un des propres de l'homme, le plus important selon moi, est la liberté. Combien de philosophes, combien de penseurs juifs, combien de politiciens ont réfléchi et écrit à ce propos ? Et des mots comme déterminisme, raison, destin, amour ont été accrochés à ce mot liberté. Combien d'hommes ont perdu la vie pour la liberté et combien d'autres suivront? Mais de quoi parle-t-on? Nous pensons tous, lorsque nous entendons ce mot, Pessah, à la sortie d'Égypte et au récit de la Haggadah, le soir, chaque année, que nous répétons inlassablement autour de la table familiale. C'est que la liberté n'est pas seulement liberté individuelle. C'est un élément fort et primordial et constitutif d'un peuple, d'une nation. C'est un lien. Je reçois ce soir, pour notre très grand plaisir et avec une grande soif d'apprendre, Édouard Robrecht, pour parler donc de ce thème, religion et politique autour de Pessah. Bonsoir, Édouard.
Bonsoir.
Merci d'être là ce soir. Édouard, tu n'es pas un inconnu de notre radio, puisque tu es déjà venu faire 2, 3, 4 émissions.
Plusieurs fois, tout à fait.
À mon avis, pas assez. Mais bon, tu es là ce soir et nous sommes très très contents. Je voudrais rappeler à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, il ne doit pas en avoir beaucoup, que tu es maître de conférence en philosophie juive à l'université d'Aix-Marseille 1 et tu es aussi conférencier. Alors, d'abord l'IECJ, est-ce que tu veux nous rappeler un peu les grandes lignes et puis comment ça va l'IECJ ?
Très très bien, l'IECJ, donc je le rappelle, c'est l'Institut interuniversitaire d'études et de culture juive qui effectivement a son siège à Aix-Marseille et qui organise toute une série d'abord de cours en faculté mais aussi de séminaires, de conférences. Je voudrais rappeler quelque chose qui me semble important, surtout pour la communauté, c'est que nous avons mis sur pied à l'IECJ un diplôme universitaire de 2 ans qui permet à des étudiants qui font par ailleurs des études à l'université, que ce soit de médecine, de droit, d'histoire ou d'autres choses, de suivre ces cours, c'est pas un programme très chargé, et de décrocher donc un diplôme qui a, depuis cette année-ci en plus, un avantage particulier, c'est qu'il est reconnu par l'université Paris 8, et que donc il permet une troisième année à Paris 8, soit qu'on y soit réellement, soit qu'on le fasse par correspondance, et donc de décrocher une licence en civilisation et langues hébraïques.
Ah, d'accord.
Donc voilà, c'est un cursus tout à fait intéressant, et je pense qu'il est important de le souligner parce que nous avons beaucoup d'écoles juives qui suivent et qui éduquent nos enfants jusqu'à 18 ans, oui. Et puis plus rien. Alors que l'IECJ existe et que donc si on veut une formation adéquate, par exemple, parce qu'on est à l'université et donc on veut aussi des arguments qui soient universitaires, eh bien il existe un institut interuniversitaire d'études juives qui peut permettre aux étudiants de ne pas décrocher complètement par rapport à leur judaïsme et par rapport aux sciences juives en général, puisqu'il est important aussi d'argumenter notre religion, pas seulement de la vivre.
Tout à fait.
C'est les deux qu'il faut.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, mais alors, je me pose une question, mais comment les étudiants font, s'inscrivent à l'IECJ et ne suivent que l'IECJ, ou alors est-ce qu'ils sont aussi inscrits d'autres licences
Voilà, tout à fait. C'est un cursus qu'on peut suivre et qu'on doit, en fait, il faut qu'on doit suivre parallèlement à un autre cursus.
Parallèlement.
C'est quand on est déjà inscrit à l'université. Mmh. Alors, bien sûr, des auditeurs libres sont possibles, mais pour ce diplôme, il faut déjà faire partie d'une université, et c'est bien un parallèle à d'autres études que l'on fait.
Qu'il était bon d'aborder, c'était la liberté, non pas un fait, mais un faire. Alors, avant de poser cette question, je retiens une phrase que tu avais annoncée, que tu m'avais dite, et qui me pose un peu problème, et j'espère que tu vas me répondre, je suis sûr que tu vas me répondre. Tu avais dit, il est écrit, on annonce à Abraham que sa descendance sera en esclavage, car, dis-tu, la liberté ne peut avoir son prix que lorsqu'on a goûté à son inverse. Alors, pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi faut-il? Est-ce qu'il faut être malade pour connaître la bonne santé? Est-ce qu'il faut faire le mal pour connaître le bien? Pourquoi faut-il être en esclavage pour connaître la liberté?
Je répondrai de manière un peu simpliste, mais pour te faire comprendre, nous ne sommes pas libres comme Dieu. Autrement dit, Dieu peut faire ce qu'il veut, nous pas. Autrement dit, la liberté pour nous n'est pas une donnée de laquelle on pourrait être certain et qu'on pourrait agir librement comme on respire. Je crois qu'on ne comprend rien à la question de la liberté. Parce que c'est plus une question. On ne comprend rien à la question de la liberté si on l'affirme simplement comme un fait. Je voudrais, à propos de cela, travailler un petit peu en philosophie précisément. Mm-hmm. Mais pas seulement en philosophie. Vous savez qu'il existe des philosophies déterministes, bien il y en a sûr. Pas mal, même dans le judaïsme. Mm-hmm. Razdai Kreskas, par exemple, était un philosophe assez déterministe. Quel est le nœud autour duquel se noue ce genre de pensée? Et il faut savoir aussi que la science, par exemple, les sciences aujourd'hui, sont particulièrement des nœuds de déterminisme aussi. Je veux dire, je ne peux pas faire sérieusement de la science si je ne suppose pas au départ que tout est déterminé. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une raison, une cause qui permet d'expliquer les phénomènes et qui précisément empêche les phénomènes d'être purement hasardeux. Mmh. Il faut donc, même s'il y a une part de probabilité, ce qu'on va appeler comme ça aujourd'hui, ces probabilités ne sont pas complètes. Autrement dit, il y a toujours un déterminisme à la clé qui me permet de restreindre même la probabilité.
Je voudrais te répondre là-dessus. Effectivement, le déterminisme, c'est quelque chose d'important en science, mais je crois qu'il n'est pas tout à fait juste de dire que la science va maîtriser tout. Et, exemple, on a étudié les lois de la gravité, etc. Et puis, on a découvert ces lois et on a fabriqué des avions. On a fabriqué des avions, ça marche. Ça veut dire que les lois sur lesquelles s'appuie ce moyen de transport sont réelles, puisqu'on le fait tous les jours. On le fait tous les jours, mais on ne maîtrise pas tout parce qu'il y a des facteurs qu'on connaît, mais qu'on ne maîtrise pas. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas tout.
Oui, il faut faire la différence entre la science au niveau théorique et bien sûr la mise en pratique, les techniques, etc. Avant de remettre en question la science, bien sûr, au niveau pratique, il faut d'abord comprendre au niveau théorique quelle est sa démarche propre. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que la science peut tout connaître réellement. Je suis en train de dire que son présupposé de départ, c'est qu'elle veut tout connaître. Et qu'elle veut donc tout ramener à un principe explicatif qui permettrait de, à la limite, et c'est le rêve de tous les scientifiques, de prédire même les événements qui vont arriver. On sait que ça ne s'est jamais fait, et probablement que ça ne se fera jamais. Mais ceci dit, ce qui est important, c'est qu'au débat, au départ, à la base de toute science, il y a cette hypothèse forte par rapport au réel qu'on va retrouver au niveau de la philosophie, hein, c'est de dire que le réel est rationnel. Et que je peux donc retrouver dans le réel, aussi aléatoire semble-t-il être de prime abord, que je peux retrouver dans ce réel une rationalité.
Oui.
Hein, et donc un principe qui me permet d'expliquer les choses. Si je ne travaille pas comme ça, je ne fais plus de la science.
Hein, la science est rationnelle, je suis tout à fait d'accord.
C'est ça qui est nécessaire. Alors il ne s'agit pas maintenant de dire que la science a raison. Ça, c'est une autre question. Simplement, le scientifique ne peut pas travailler autrement qu'avec cette hypothèse forte, on dirait en langage kantien, c'est une idée régulatrice. Mmh. Je ne peux pas faire de la science, donc chercher à expliquer les choses, si je ne travaille pas dans ce sens-là. Est-ce que la science, maintenant, dit tout sur le réel? Non.
Non. Et je crois qu'elle n'a plus cette prétention.
Tout à fait. Au niveau de l'épistémologie, on le sait aujourd'hui, voilà. Et grâce aussi à la philosophie, il faut le dire, hein, on limite précisément les prétentions de la science. Par exemple, le scientifique qui fait de la science,
oui.
Est-il déterminé?
Oui.
Serait-il lui-même partie de l'équation qu'il fait? Ou bien, pour pouvoir précisément contempler le monde comme de l'extérieur et écrire cette équation comme si lui-même n'était pas dans cette équation, ne suppose-t-il pas aussi un minimum de liberté, au moins une hésitation, au moins une question? Et c'est là que la liberté revient.
Ça suppose déjà, pour lui, la connaissance de ses déterminismes. Parce qu'en connaissant ses déterminismes, il peut déjà créer un certain recul par rapport à la chose.
Tout à fait, mais cela veut dire en tout cas que c'est important, qu'au niveau scientifique, au niveau de la prétention du déterminisme, on ne pourra jamais, en fait, dire l'inverse.
Non,
on ne pourra jamais dire qu'il n'y a pas de déterminisme. Au contraire, ce que la science nous apprend de plus, et ce qu'elle va faire, il faut le savoir. Dans l'avenir, on va de plus en plus avoir l'impression d'être soumis à des déterminismes quasi complets. L'important ici, ce n'est pas le complet, c'est le quasi. Parce que ça veut dire que, bien sûr, nous sommes déterminés, Mais pas complètement. Ou peut-être pas complètement. Et c'est
pas
là, et c'est ça,
et
c'est là la question. C'est peut-être pas complètement. Et s'il y a un peut-être pas complètement, se pose une question de la liberté possible. Et donc, et c'est là qu'on arrive à la question juive,
oui,
de la responsabilité possible.
Tout à fait.
Parce que si je suis libre, c'est peut-être aussi, et c'est sûrement pour nous, que je suis responsable. Or là, il y a un grain de sable dans l'univers qui fait que les choses ne tournent plus rond et qu'on se pose tout d'un coup une question qui, au niveau d'un déterminisme complet, n'a pas lieu d'être. Elle est ridicule, cette question. Si tout est déterminé, de toute façon, si on se pose la question ou pas, ça ne change rien.
Absolument.
Or, précisément, et là, au niveau déjà de la philosophie, on a tout de même un sentiment de liberté ou de liberté possible. En tout cas, on a, au niveau même de la manière, quand on se pose la question, déjà, le fait même de se poser une question, c'est prendre un recul par rapport aux choses, à l'être et au monde, qui me met comme en dehors du monde.
Oui.
Comme s'il était possible d'avoir une distance radicale face au monde. Ce doute, cette question, c'est le départ, sous l'ouverture, on pourrait dire, d'un autre monde, qui est précisément celui de la liberté possible et de la responsabilité.
Oui.
Je donne un exemple de cela, en philo toujours. Descartes.
Mm-hmm.
Descartes doute de tout.
Oui, oui, c'est le doute hyperbolique.
Celui qu'on appelle le philosophe, celui qui a fondé la philosophie moderne, si on peut dire.
Oui.
Un doute hyperbolique, sûrement, mais tous nos doutes sont hyperboliques.
Oui. Hein.
Lorsque je suis désespéré de tout.
Oui.
Lorsque je suis heureux de tout.
Mm-hmm. Hein,
les sentiments humains, alors à moins qu'on dise qu'ils ne valent rien, qu'ils ne sont rien, que la subjectivité donc n'est rien, hein, mais les sentiments humains, en tout cas quand on les vit, nous absorbent complètement en eux, et donc nous font vivre comme si, d'une manière un peu fantasque, hein, comme si tout le monde, parce que tout d'un coup je suis heureux, était plein de lumière. Ou si tout d'un coup je suis le contraire, eh bien il est sombre et sans avenir.
Oui.
Donc ce qui est important ici, c'est de voir que la subjectivité peut s'opposer chez Descartes, peut quelque part s'opposer en dehors du monde, en doutant de tout.
Oui.
Alors précisément, ça veut dire, comme la célèbre formule, je pense, je suis, ça veut dire qu'il y a un acte possible par lequel je me détache.
Oui.
De ce qui semble être un déterminisme pour me poser la question ou pour essayer de juger le monde et lui dire est-ce qu'il a de la valeur ou pas, pour moi. Or, ce détachement suppose précisément la fin du déterminisme, puisque je peux prendre distance par rapport à cela. Alors, ça ne prouve pas la fin du déterminisme. Je le dirai dans le langage. La liberté ne se prouve pas. Ce qui se prouve, c'est le déterminisme. La liberté ne se prouve pas, mais elle s'éprouve.
Elle
s'éprouve dans un acte qui n'est pas un fait, mais qui est un faire. C'est-à-dire, c'est-à-dire précisément, un effort pour... C'est pour ça que je préférerais par rapport au mot liberté, parce que liberté, on a l'impression bon, je suis libre, je suis libre.
Non, c'est un état. Fait.
La liberté existe. Oui. Mais non.
Non, tout à fait.
C'est un processus
c'est un de
libération.
Mm-hmm.
Et donc je préfère au mot liberté, parce que là c'est un fait, comme le déterminisme c'est un fait, mais un fait par rapport à un autre fait, qui a raison. Non, c'est un faire possible, c'est un avènement possible de l'humain en moi qui me rend libre, c'est-à-dire responsable, c'est-à-dire. Pas seulement porté par ma famille, mon état, ma nation, etc., mais les portant moi-même. Tout d'un coup, j'en deviens responsable. Je deviens non plus celui que le monde porte, mais celui qui porte le monde.
Celui qui porte le monde, exactement. Oui,
non, juste l'inverse.
Tout à fait. Mais alors, quand tu dis « c'est la fin du déterminisme », est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire, en tout cas ça me conviendrait mieux, moi, sauf si tu me montres le contraire, c'est de dire « la limite du déterminisme ».
Oui, et une limite fluctuante, c'est pour ça que
une limite fluctuante.
Une limite, il faudrait dire, fragile. Hein, comme l'être humain est fragile.
Mm-hmm.
Il suffit de regarder l'histoire pour se rendre compte, effectivement, que l'humanité dans l'histoire a été plus une exception qu'une règle.
Oui.
De la même manière, la liberté ou le processus de libération a été plus une exception qu'une règle. Et bien souvent, malheureusement, l'être humain se laisse pousser ou se laisse, comme on dit, tirer par le bout du nez. Hein. Il se laisse pousser et n'est plus cet être responsable qu'on attendrait qu'il soit. Ce qui est important ici, c'est précisément la question, mais qu'est-ce qui peut m'assurer que véritablement ce processus de libération est porteur d'un sens, qu'il n'est pas pur défi, sans plus, un peu comme un défi nietzschéen, hein, face au monde dans son entier, c'est déjà beau, c'est déjà très bien, c'est sans doute théâtral.
Oui, mais...
Mais est-ce que vraiment on peut construire et sa vie propre, personnelle, et surtout la société, sur ce pur défi? C'est là que je pense précisément que la tradition juive a quelque chose à dire et dont elle peut témoigner. Parce que finalement, ce qui est fondamental dans toute notre tradition, et qu'on répète à chaque prière, c'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Mmh. C'est-à-dire précisément un événement hautement improbable, pour ne pas dire plus, et qui pourtant est considéré par nous comme l'émergence même de notre vie comme peuple. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'existe pas en dehors de cette sortie d'Égypte. Enlever la sortie d'Égypte, il n'y a pas de peuple.
Il n'y a pas de peuple d'Israël. Hein,
comme si constitutivement notre peuple s'était créé, s'était construit autour de cette notion de libération, mais d'une libération qui précisément ne vient pas d'abord de moi, de ma propre force, de ma liberté comme fait existant, mais d'un appel extérieur, d'une intervention divine précisément, c'est-à-dire d'une extériorité qui tout d'un coup, intervenant dans l'histoire, crée quelque chose d'autre que simplement le déterminisme total. Mmh. Une autre possibilité dont précisément le judaïsme devient par le fait même le témoin. Mmh. Les témoins, pas seulement pour lui. Mmh. C'est clair. On veut, nous, créer une société de liberté, on ne veut pas retourner en Égypte. Mais témoin devant les nations aussi.
C'est une sorte de Big Bang intentionnel pour le peuple juif, quoi.
Je pense que, en tout cas,
c'est l'étincelle de départ.
C'est plus important quelque part que la notion même de création, même si quelque part elle la reprend, cette notion de libération, parce que véritablement c'est là que se crée l'humain dans l'histoire. Parce que l'humain précisément peut aussi ne pas émerger, on peut se rater. Et je crois qu'il est très important de prendre conscience de cela. La liberté, s'il n'est pas un fait, cela signifie que l'humain non plus. Si ce qui définit l'humain, c'est sa capacité précisément à agir et donc à prendre des responsabilités qui ne sont pas une illusion, mais qui sont réelles.
Réelles, hein, sûr. Oui.
Si c'est cela qui définit l'humain, eh bien, cela veut dire que ce qui est en jeu dans la liberté et dans l'humain, c'est précisément cette capacité de libération. Et le peuple d'Israël, en ce sens-là, n'a pas du tout un témoignage marginal à apporter à l'humanité. C'est fondamental.
Oui. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de cette intervention, et moi, je pensais en même temps à quelque chose. Les fameuses quatre coupes qu'on boit, c'est pour quatre formes de liberté différentes. J'aimerais que tu nous expliques un peu ça.
Oui, alors ça fait référence. Alors, ta question, elle est très bonne, parce que nous sommes précisément dans ce passage au niveau de la paracha du livre de la Genèse au livre de l'Exode. Je voudrais insister précisément sur cette fragilité de la liberté avant d'arriver à aux quatre coupes. La fragilité de la liberté, on la voit de manière très précise à la fin du livre de la Genèse, au début du livre de l'Exode. On a une famille, la famille d'Israël, avec 12 enfants, 13 si on prend déjà Ephraïm et Ménaché, qui est une réussite fantastique. Le livre de la Genèse commence par le meurtre de Caïn et Abel. Il se termine par la réconciliation entre Joseph et ses frères. Ça y est, la famille éthique est née. Hein. On est parvenu à vaincre la violence en Israël. Les fils d'Israël sont précisément ceux qui parviennent à surmonter cette violence, in extremis sans doute. C'est jamais évident, c'est pas facile, mais on le fait. Fantastique. Mmh. Alléluia. Le livre de la Genèse devrait être le dernier livre de la Torah.
Mais
tout rebondit. On prend le premier chapitre de l'Exode. Et c'est une catastrophe, il y a un nouveau pharaon, et le peuple d'Israël, quasiment à la fin de ce premier chapitre, n'existe plus. Le pharaon a dit, jetez les enfants mâles au fleuve, c'est fini. Toute la transmission est arrêtée. Toute cette éthique superbe qu'on a mis en place et qui a traversé tout le livre de la Genèse n'existe plus face aux politiques totalitaires de pharaon.
C'est un fait politique.
Oui, tout à fait. Et face à ce politique et à ce fait massif du politique, que peut la liberté? Que peut l'éthique, justement? Et le premier chapitre de l'Exode est catastrophique. Tout est fini. C'en est fini du peuple d'Israël. Il est broyé, avalé complètement par l'Égypte. Et je veux dire, ce récit est paradigmatique. Il est paradigmatique d'une certaine histoire d'Israël, qui voulant témoigner d'une éthique possible dans l'histoire, voulant témoigner donc face aux autres peuples, est broyé par des empires successifs qui se partagent ces territoires, etc., et qui le laissent sans territoire, en exil, sans force, sans capacité, à la limite même, de se construire lui-même. Hein, comme on dit dans le Cantique des Cantiques, Carmiche est ligue dans la tarte et j'ai pas même pu garder ma propre vigne, c'est fini, je travaille pour la vigne des autres.
C'est un esclave, voilà, tout simplement.
C'est un esclave, c'est l'exil. Mmh. Et la notion d'exil est d'autant plus effrayante hein, qu'elle repose toujours cette question-là. Est-ce que Israël, en tant que peuple témoin d'un appel extérieur qui libère l'homme de l'esclavage et de l'aliénation, est-ce qu'on lui laisse encore la voie? Est-ce qu'on n'essaye pas précisément toujours de les réduire à un phénomène purement politique de colonisation, d'impérialisme, etc.
C'est une question qu'on peut se poser encore aujourd'hui.
C'est une question tout à fait contemporaine et même brûlante, on pourrait dire.
Brûlante, oui, tout à fait. Tu devais revenir
sur les quatre. Tu as raison. Sur les quatre vers. Alors c'est tout simplement au chapitre 6 de l'Exode qu'on trouve quatre degrés de libération de l'Égypte et que la tradition a tout simplement remis rituellement dans le Seder de Pessah. Ces quatre libérations sont les suivantes. Veotseti otrem eretz Mitzrayim, donc je voulais vous faire sortir des souffrances d'Égypte. Je vais vous sauver, itzalti etrem me'avodatam, de leur culte, hein, il faudrait dire, c'est pas nécessairement de leur travail, c'est peut-être de leur culte. Il s'agit peut-être d'un sauvetage religieux, hein, oui. Dont on veut faire sortir Israël de l'idolâtrie. Vegaalti etrem, je vais vous délivrer. Hein, ça, c'est vraiment la délivrance ou la rédemption, ce qu'on traduit en français, c'est un drôle de terme. La délivrance, bishvatim gdolim, bizroa netuya, ou bishvatim gdolim. Et avec une main étendue ou un bras étendu et de grands jugements. Et puis, on a donc trois actes de libération. Oui. Le quatrième, vaitem li les âmes. Et vous serez pour moi un peuple et je serai pour vous un Dieu et vous connaîtrez la transcendance. C'est un passage tout à fait fondamental au chapitre 6 de l'Exode, parce que, précisément, il nous raconte la difficulté de sortir. S'il y a quatre stades de sortie, c'est que c'est pas du tout évident. Le processus de libération est un véritable processus. Il faut bien passer par chaque stade.
Voilà, ce sont des stades.
Chacun
exactement.
Des stades, voilà. Mmh. Chacun des stades supposant le stade précédent pour véritablement sortir d'Égypte. Et d'où l'importance des quatre coupes aussi, qui nous apprend que, c'est pour ça qu'on étudie à Pessah, que sortir d'Égypte, c'est vraiment pas évident. Et peut-être l'Égypte est-elle encore dans nos cœurs. Précisément parce que s'il s'agit de sortir d'un système politique totalitaire, violent, aliénant, idolâtre aussi, mais peut-être que le travail n'est jamais fini complètement et qu'on risque toujours de retomber dedans. D'où nécessité du rite qui construit l'être humain dans son processus de libération. J'ai déjà fait ici un résumé de la conception de la liberté dans la tradition juive. La liberté n'est pas un fait, c'est un faire, et c'est un faire qui doit être porté par un peuple, parce que je ne suis jamais libre seul. Je suis libre parce que des institutions me permettent d'être libre. C'est vrai en France aujourd'hui, si vous n'avez pas des lois qui permettent ce qu'on appelle la liberté, le fait de pouvoir, on aime bien ça en France, manifester, faire des grèves, etc., je n'aurai pas cette liberté. On connaît, on sait très bien, au XXe siècle, on a eu suffisamment d'exemples où la liberté a montré sa fragilité extrême. Et donc s'il n'y a pas d'institution qui porte la liberté et la responsabilité, la liberté est un vain mot.
Tout à fait.
Le judaïsme a traversé l'histoire parce qu'il a sans cesse eu conscience et a travaillé cette conscience de l'intérieur que sans institution juste, sans rite qui porte et éduque chacun sans arrêt tous les jours, la libération, le processus de libération reste un vœu pieux. Ce qui serait une catastrophe.
Mais c'est un travail qui n'est jamais fini. Et finalement, cette liberté, c'est un petit peu un équilibre instable dans lequel constamment on doit faire l'effort pour rester stable. C'est bien ça ?
Oui. C'est-à-dire, si on comprend la liberté précisément comme, non pas un fait, mais comme une réponse à un appel. C'est-à-dire, il y a une transcendance qui nous appelle à devenir libre, à sortir de l'Égypte pour véritablement advenir à la liberté et responsabilité au Sinaï. Si on entend cela comme un appel, bien sûr, on n'a jamais fini. Mais d'autre part, c'est là que le sens de l'humain émerge véritablement, parce que cela signifie que je ne suis pas encore ce que je peux devenir, c'est-à-dire que Ce que mes parents ont fait de moi, ce que la société a fait de moi, ce n'est encore rien par rapport à ce que je peux devenir au sens, à travers la responsabilité que je peux construire à ma vie. Donc autrement dit, c'est par la responsabilité infinie que naît véritablement une personnalité unique. Hein, ça, je renvoie bien sûr à Lévinas, qui a travaillé cela énormément. C'est à travers la responsabilité irrésiliable qui me tombe dessus que je peux véritablement devenir unique. Non pas parce que je le suis, mais parce que je le deviens en répondant de.
Alors ça, ça me fait rappeler à quelque chose dont tu avais parlé. Tu disais, Dieu a dit, faisons l'homme. Faisons l'homme, ça veut dire quoi? Moi, j'ai réfléchi un peu. Je ne sais pas si je suis à côté de ce que tu as voulu dire, mais j'ai eu l'impression que tu voulais dire que Dieu a mis, lorsqu'il a fait l'homme, il a mis des potentialités. Et c'est l'homme lui-même qui doit faire exprimer ses potentialités.
Ah oui, tu fais référence. Alors, il y a plusieurs midrashim là-dessus. Hein. La formule a très fortement embêté les rabbins, bien sûr, avec la naissance du christianisme.
Oui.
C'était un argument pour la Trinité, donc on s'est dépêché d'essayer de trouver d'autres solutions. Il y a plusieurs midrashim là-dessus. Celui auquel tu fais allusion se trouve dans le midrash rabba. Il dit la chose suivante: à qui a parlé Dieu? À qui a-t-il dit « faisons l'homme » ? Il y aura plusieurs réponses. La réponse que j'ai retenue et que tu as retenue ici, c'est la suivante, c'est « faisons l'homme, dit Dieu, au juste ». Dieu a interpellé les justes et leur dit « faisons l'homme ». Ce qu'il faut comprendre en fait, ce n'est pas qu'il n'a parlé qu'aux justes. Il a parlé en fait à tout le monde, à tous les hommes. Mais il n'y a que les justes qui ont pu l'entendre. C'est un très beau midrash parce que quelque part il nous donne aussi la définition du juste. Qu'est-ce que c'est qu'un juste ? De nouveau, c'est pas comme j'ai, de la même manière que j'ai posé la question de la liberté, c'est pas qu'il est libre. De la même manière, on n'est pas juste. On ne naît pas juste et on n'est pas juste. Hein, les deux. C'est-à-dire, d'ailleurs, on le dit dans la tradition, celui qui se prend pour un juste, il est sûrement pas. Fini. La justice est donc un effort vers la justice. Hein. Donc celui, qu'est-ce que c'est les justes ? Précisément, c'est ceux qui sont capables d'entendre cet appel. Il leur dit « faisons l'homme ». Autrement dit, je ne suis pas encore fait, je suis encore à faire. Ni moi ni les autres. C'est-à-dire, je suis pris dans un processus, il faut que je construise l'humanité en moi et hors de moi. Et c'est seulement dans cette écoute d'un appel qui vient de l'extérieur et qui me lance vers ma propre justice que véritablement naît le juste. C'est là qu'il émerge à son acte. Et donc « faisons l'homme », bien sûr, cela signifie que l'homme n'est pas fait de nouveau. Hein, fait comme un rat, parce qu'il serait précisément, il ne serait précisément à ce moment-là que le produit des déterminismes multiples. Alors je souligne de nouveau, ce n'est pas que l'homme n'est pas déterminé. Nous sommes tous déterminés. Je nais dans telle famille, avec tel chromosome, avec telle éducation, avec tels attendus historiques, tels atavismes, etc.
Oui,
donc il y a bien sûr un déterminisme qui est quasiment tout. Mais
qui ne conduit pas au fatalisme. Ouais,
qui ne conduit pas au fatalisme, parce qu'il y a un appel qui me libère de ce déterminisme en me disant
tout
mais tu
fait.
Sais, tu peux faire autre chose. Faisons l'homme. Si tu acceptes, alors la différence entre les justes et les autres, c'est précisément que les autres n'entendent pas, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont déjà humains. Mais ça, c'est une tentation qui nous traverse tous les jours. Moi, je suis l'homme. Je suis le meilleur. Je suis. C'est moi. Regardez-moi, il n'y a qu'un voix.
Thank you.
l'écoute de l'émission Judaïsme pluriel et je vous rappelle que ce soir, avec Édouard Robrecht, nous parlons de religion et politique autour de Pessah. Alors, nous avons abordé déjà pas mal de questions. Il y a une phrase que je t'ai entendu dire et que je connaissais d'ailleurs, mais sur laquelle j'aimerais qu'on revienne parce que je voudrais qu'on aille jusqu'au fond de son sens. Je t'ai entendu dire « Tout est entre les mains des cieux, sauf la crainte du ciel ». Alors je voudrais qu'on explique ça par rapport à la liberté, par rapport au libre arbitre que Dieu nous a donné.
Justement, alors donc c'est pas moi qui l'ai dit, oh là là.
Oui, je sais.
C'est bien dans la tradition.
Je vais l'exprimer alors.
Tout à fait, c'est la tradition qui rapporte cette phrase. Je crois que c'est Rabbi Akiba d'ailleurs qui l'a dite. Alors justement, cette phrase est fondamentale parce qu'elle dit bien ce que j'ai dit auparavant, que la liberté n'est pas un fait. Au contraire, tout est entre les mains des dieux. Autrement dit, la notion de départ qu'il faut comprendre, c'est le déterminisme. Tout est déterminé, c'est ça que ça veut dire. Sauf, et voilà précisément le grain de sable, sauf la crainte de Dieu. Que signifie donc la notion de crainte de Dieu? Parce qu'on a l'impression que la crainte, c'est uniquement un sentiment. Or, dans la tradition, la crainte n'est pas du tout seulement un sentiment. Elle se partage, d'ailleurs, il y a des débats assez profonds pour savoir qu'est-ce qui est plus important, la crainte ou l'amour de Dieu. Autrement dit, crainte ou amour sont les deux, quelque part, les deux sentiments ou valeurs qui sont les plus proches, quelque part, du divin. Donc la crainte n'est pas du tout quelque chose de marginal dans la tradition. La preuve de cela, et je crois que c'est un exemple qui va nous faire comprendre peut-être ce que signifie le mot crainte, c'est le rêve de l'échelle de Jacob. Tout le monde connaît ce rêve. Jacob qui s'enfuit devant son frère, la fraternité est toujours difficile, hein, pour ne pas être tué par lui, donc devant la violence, il s'enfuit et donc il va passer la nuit à un endroit, hein, il prend une pierre du lieu et il va s'endormir là, il va se mettre à rêver. Alors, tout le monde connaît le rêve de l'échelle de Jacob. Ce qui est important, première chose, c'est que quand Jacob se réveille, première réaction qu'il a, « Manora amakomazé ». Il est « Nora », terrible. Hein, mais le mot « Nora » signifie en fait « crainte ». Et le texte dit aussi « Vaïra Yaakov », il a eu crainte, il a eu la crainte. Autrement dit, la réaction de Jacob par rapport à ce rêve, qui est un rêve prophétique, c'est la crainte. Donc c'est pas peu, parce que dans ce rêve, il y a tout un programme quelque part, toute une manière aussi de relation avec le divin. Autrement dit, ce qui serait par excellence la relation avec Dieu serait de l'ordre de la crainte. Pourquoi? Alors c'est intéressant dans le rêve. Souvent on le lit mal.
Mais attends, quand tu dis la crainte, on ne sait pas encore vraiment ce que veut dire la crainte.
Justement, c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre. La crainte, je pourrais dire, c'est la peur.
C'est le premier sens auquel on pense.
On a un autre texte, par exemple, c'est la même chose aussi, quand à la révélation du Sinaï, on dit que le peuple a eu, alors Vaïra, de nouveau, il a eu peur ou il a eu crainte. Et la phrase suivante, Moïse, c'était très intéressant, il utilise le terme dans deux sens différents. Soit c'est la peur, soit c'est la crainte. Donc il y a une ambiguïté dans le terme. Ce que je voudrais montrer ici, c'est la peur ou la crainte, c'est pas du tout la même chose. Jacob, ici, n'a pas peur. C'est fini, le rêve est passé. Il a, au contraire, le résultat de son expérience prophétique, c'est la crainte. Que veut dire la crainte? L'image de l'échelle de Jacob, elle est fantastique. Parce qu'elle est l'exact opposé, par exemple, de la tour de Babel. La tour de Babel, elle est ancrée dans le sol et elle veut arriver dans le ciel. Si vous regardez bien le texte de l'échelle de Jacob, c'est une échelle qu'on ne peut voir qu'en rêve. Pourquoi? Parce que, on dit dans le texte, sa tête était vers le ciel, et elle allait vers la terre. Mais on ne dit pas qu'elle était dans le ciel ni dans la terre. Une échelle, en principe, pour reposer, pour tenir le coup, elle doit être ancrée sur deux, le haut et le bas. Or, dans ce rêve, précisément, elle est hantée dans le vide. Ce que la crainte nous apprend précisément, c'est que la relation avec celui qu'on appelle Dieu, la transcendance, Hachem en hébreu, cette relation n'est pas le lieu d'une fusion, d'une relation où je m'approprie le divin, où je peux maîtriser le divin, mais au contraire, où je prends conscience d'une distance, bien sûr, qui me met en relation avec lui. L'échelle est un va-et-vient qui me met en relation avec le divin, mais c'est une échelle que je ne touche pas et qui ne me touche pas. C'est une échelle qui garde une distance. Or, la crainte, précisément, quand est-ce que je crains quelqu'un? C'est-à-dire, je le dirais en français le terme plus exact, c'est le respect. quand est-ce que je respecte quelqu'un? Quand j'ai conscience de la distance qui m'en sépare.
Tout à fait.
D'où le problème, souvent, au niveau familial, on en parle aujourd'hui dans la communauté aussi, il y a des violences familiales, non pas parce qu'on est méchant dans la famille, mais parce que vivant l'un avec l'autre sans arrêt, la distance de l'un à l'autre est moins évidente, et au contraire, ce qui est naturel, c'est de bouffer cette distance, et donc de plus respecter l'autre.
De franchir.
De franchir la distance, parce qu'on n'en a même plus conscience. C'est tellement clair que l'autre c'est moi et que moi c'est l'autre, que je ne sais plus respecter l'autre en fait. D'où la nécessité, par des rites par exemple de Linda ou d'autres choses, de remettre de la distance, c'est-à-dire de réamorcer le respect entre chacun dans la famille. Donc le respect ici, c'est précisément cette conscience de la distance. Lorsqu'on nous dit donc, et j'en termine maintenant avec cette échelle de Jacob, que cette expérience de prophétie profonde que Jacob a faite de la relation avec le divin, sa première réaction, c'est précisément la crainte, c'est-à-dire la conscience d'une distance. On est en train de nous dire précisément, non seulement que la crainte est fondamentale dans la relation divine, mais que quelque part, elle est la condition même d'une relation avec le divin. C'est à travers la crainte, c'est-à-dire la conscience d'une distance, que je peux véritablement m'ouvrir à ce qui fait l'interpellation du divin par rapport à l'homme. Je reviens maintenant à notre phrase de départ. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Si je comprends maintenant la crainte de Dieu, c'est-à-dire cette conscience de la distance infinie qui me sépare encore de celui qui me parle, de celui qui m'appelle. Or cela, ce n'est pas une petite chose, c'est toute la vie juive. Toute la vie juive, tout ce qu'on appelle les mitzvot, etc., c'est exactement cela. C'est-à-dire la capacité pour l'homme d'être réceptif à un appel qui le dépasse, donc dont il a conscience de la distance, mais qui en même temps l'appelle, c'est-à-dire l'embarque dans une histoire, l'embarque dans une aventure. Et je crois que le peuple juif, son histoire, c'est cela. Nous sommes embarqués dans une aventure, dirigé par un appel, appelé par cet appel, on ne sait pas exactement où on va. Abraham, quand on lui dit « tu vas vers une terre, je te dirai », mais on ne sait pas. Mais on y va parce qu'on entend que cet appel nous fait sortir précisément de « tout est entre les mains de Dieu ». Non, 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 pas tout, parce qu'il y a la crainte du ciel, et que la crainte du ciel est précisément ce petit grain de sable qui peut faire que l'homme va vers cet appel pour le construire, et pour devenir juste, ou pas. C'est-à-dire, c'est là aussi que l'homme peut détruire le monde, et peut détruire l'homme dans le monde.
Effectivement, on peut suivre cet appel, ou ne pas le suivre. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup d'hommes qui ne suivent pas cet appel. Dieu leur a donné la possibilité de ne pas suivre cet appel. D'ailleurs,
Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre ici, ce qui est important, c'est qu'il y a... au niveau philosophique, c'est très important aussi. Ne mettons pas de nom trop rapidement sur celui qui appelle. L'important, c'est que cet appel fait écho en nous et qu'on l'entend et qu'il y a une certitude dans le sens de cet appel. C'est là que se joue le judaïsme. Non pas sur des notions ou des concepts qu'on pourrait prétendre maîtriser. Le mot Dieu à ce niveau-là est un mot, d'ailleurs dans la tradition, ça peut être un mot qui désigne Moïse et Dieu pour Pharaon. C'est un mot avec lequel il faut parfois faire attention parce qu'il peut devenir idolatrique, c'est-à-dire qu'il peut nous donner l'impression d'une maîtrise sur ce qu'il nous appelle, alors que c'est l'inverse. Dire le nom d'Hachem, c'est pour ça qu'on le dit avec difficulté toujours, ou qu'il faut le dire toujours en étant conscient du lieu et du moment où on va le dire. Il ne faut pas faire une bracha le batala, par exemple, parce que ce nom est ancré dans quelque chose qui nous dépasse et non pas que dans quelque chose que l'on maîtrise. Et donc cette conscience de la distance dont j'ai parlé, cette conscience de la non-maîtrise, mais au contraire du fait que c'est cet appel qui nous maîtrise quelque part, c'est-à-dire qui nous enjoint à quelque chose qui nous dépasse, c'est cette conscience qui fait la véritable vie de la tradition. C'est pas pour rien qu'on étudie sans arrêt, non pas parce qu'on est bête et qu'on n'a pas retenu ce qu'on a étudié la veille, mais c'est parce que l'étude est ce lieu où on peut entendre encore l'appel qui nous dépasse, plutôt que de le réduire à ce qu'on a déjà cru en entendre.
Alors qu'arrive-t-il à ceux qui ne qui ne suivent pas, qui n'entendent pas. Je ne dirais pas qu'ils ne suivent pas. Alors, de ce que je viens d'écouter là, je dirais qu'ils n'entendent pas cet appel.
Oui.
Hein, c'est plutôt que de dire ne suivent pas cet appel.
Tout à fait. À l'anthropologie biblique, comme je l'ai dit, mais quand on pose la question de la liberté, c'est cette question-là qu'on pose. Quand on prend conscience de la fragilité de l'humain dans l'histoire, mais précisément, on n'est plus trop surpris par ces catastrophes qui visitent l'histoire. C'est-à-dire que effectivement, si l'homme ne se construit pas, ne se fait pas, n'a pas cette conscience que sans arrêt, il doit remettre son travail sur le métier, c'est-à-dire se travailler lui-même pour devenir encore plus humain, s'il n'a pas cette conscience et cette capacité à évoluer, à travailler, précisément, il peut se détruire et se défaire. C'est effrayant. Oui. Et je veux dire, lorsqu'on a conscience de cela et donc de l'importance du témoignage que constitue le témoignage du peuple juif dans le monde et dans l'histoire, ça n'est plus du folklore. Ça devient une question fondamentale par rapport à laquelle l'avenir même de l'humain et de l'humanité est posé. Sauf si on se dit, bien sûr, tout est écrit, de toute façon, c'est à l'avance décidé. À ce moment-là, on est en train de saper la question de la mitzvah, c'est-à-dire de la responsabilité humaine dans l'histoire.
Tout à fait. On écarte cette question, mais on peut quand même se poser la question. En écartant cette question, tout est écrit, le fatalisme le plus absolu, on peut quand même se poser la question de savoir ce qui arrive aux gens qui ne suivent pas cette voie. Ils ont du démérite, as-tu dit.
Oui,
ça veut dire quoi ?
Je dis, l'appel est toujours là. Oui. Et le témoignage de l'appel, en principe, aussi. Je veux dire, si le peuple juif est un peuple témoin, c'est aussi pour cela. Mm-hmm. C'est-à-dire, que, comme le disent très bien les prophètes, tu n'es pas tenu, bien sûr, de prendre la responsabilité des autres à leur place, mais tu es tenu de faire entendre l'appel. Et le prophète qui ne ferait pas entendre l'interpellation divine est tenu responsable de ce non-témoignage qu'il a fait. Parce que plutôt que de crier au feu, ben précisément, il n'a rien crié du tout et tout le monde a péri dans l'incendie. Comprendre que le monde... c'est un très beau midrash. Où on pose la question à propos d'Abraham qui s'en va dans le texte. C'est vrai qu'on ne donne pas de raison pourquoi donc Dieu parle-t-il à Abraham. Il n'y a pas de raison évidente dans le texte. Un très beau midrash qui est la première réponse du midrash rabbin est de dire Abraham a vu le monde... Et le monde est comme un palais, mais c'est un palais en flammes. Et il s'est demandé, mais où est le propriétaire de ce palais ? Eh bien, je crois que cette démarche-là, elle est tout à fait fondamentale. Le monde est fait pour être un paradis. On pourrait en faire un paradis. On a aujourd'hui les ressources nécessaires pour que l'humanité tout entière puisse vivre dans l'abondance, dans la paix et dans la sérénité, parce que effectivement, on a les moyens pour...
Mais que ce soit très loin.
Pourquoi ce palais ? Ce qui devrait être un palais, est-il en flammes, rongé par la violence, rongé par des choses abominables, rongé par ce qu'on voit tous les jours? C'est la question qui fait partir Abraham, et je pense que c'est la question qui doit nous faire partir, et nous faire témoigner aussi.
Oui.
Celui qui se rend compte que le palais est en flammes, il doit crier, il doit dire, il est temps d'arrêter ça, amener de l'eau, l'eau de la Torah précisément, hein, pour qu'on arrête cet incendie.
Mais alors je vais te poser une question qui va peut-être te surprendre, excuse-moi d'avance. Y a-t-il que les juifs qui entendent cet appel, ou bien est-ce que d'autres qui entendent cet appel sont aussi des juifs? Alors, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi les juifs seulement entendent cet appel?
Alors la réponse elle est simple, hein, je reprends le Midrash rabbin, faisons l'homme, dit Dieu au juste. Et on sait très bien que dans la tradition juive, bien sûr Israël a vocation à devenir juste, hein, je l'ai dit, on ne l'est jamais, donc on a vocation à le devenir, mais il y a des justes parmi les nations. Et ces justes peuvent même être parfois des communautés, pourquoi pas.
Ah oui, d'accord.
Mais oui, bien sûr, l'appel, quand on entend tes appels, je veux dire cette phrase, faisons l'homme, elle est d'ailleurs dite dans un contexte qui n'est pas le contexte uniquement d'Israël, c'est Dieu qui parle à l'homme, à Adam, avant même qu'il ne soit créé, pour l'appeler à travers cet appel à émerger à lui-même. Et donc il s'agit bien d'un appel universel.
On ne le dit pas assez.
Ah, peut-être, parce qu'on en a peur aussi, c'est vrai, parce que c'est une responsabilité énorme. pour le prophète, crier pour toute la ville, crier pour tout, pour tous, Jonas, par exemple, c'est une responsabilité incroyable. Comment aller dire à ces gens qui ont détruit, qui ont mis en Ninive, c'est la capitale de des déportations des 10 tribus, aller crier à ces gens-là, leur dire attention et faites teshuva, c'est terrible.
Oui.
Mais en même temps, c'est nécessaire.
Oui.
Et
oui.
À la limite, c'est vital. Mais ceci dit, on comprend bien Jonas aussi, qui refuse. Mais Dieu s'acharne.
Bien, on est pratiquement arrivé au terme de cette émission. J'ai retenu que, d'abord, on n'a pas traité complètement le sujet.
Non.
Deuxièmement, que tu es prêt à revenir. Donc, voilà, on sera très, très heureux de te recevoir. Nous allons convenir d'autres dates. Et je te remercie d'être venu ce soir.
Merci.
Ça nous a fait réfléchir et ça va continuer à nous faire réfléchir.
Merci à vous.
Voilà. Merci. Merci, Edouard. Et à très, très bientôt. Bonsoir et à la semaine prochaine.
C'est Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.